Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons environnement avec des histoires très concrètes. Comment les luttes collectives peuvent l'emporter sur des projets polluants? Selon les Nations Unies, le nombre d'affaires judiciaires liées au climat a plus que doublé en l'espace de 5 ans. Des mobilisations locales contre des projets de barrages, d'extensions de sites industriels, des recours juridiques contre des usines polluantes ou des géants de l'agroalimentaire. Les citoyens s'engagent pour préserver leur environnement et leurs actions peuvent parfois réussir. Blocage, occupation, réunion publique, action en justice, comment s'organisent finalement ces citoyens ordinaires? Pourquoi certaines actions peinent à aboutir malgré les preuves d'impact négatif sur la santé, sur l'environnement, les sols? Nous allons en discuter avec Gaëtan Renaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le co-auteur d'une étude intitulée « Quand la lutte l'emporte, une décennie de victoires contre des projets imposés et polluants » qui a été commandée par l'association Terre de Lutte et la revue Silence. Également avec nous Grégoire Ossoa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous publiez Atome 33, histoire d'une lutte collective contre une pollution industrielle au Québec. Et c'est publié chez Marchiali qui sortira le 12 février, dans quelques jours donc. Et vous êtes avec nous pour nous expliquer exactement à travers des histoires très concrètes comment cela peut fonctionner. Nous serons aussi en ligne avec Abderrahmane Sissako, cinéaste, président de l'association Mauritanienne pour l'environnement, l'association qui organise une marche bleue très bientôt pour la préservation des zones humides en Mauritanie. En cause évidemment la déforestation. Ça va se passer du 1er au 9 février prochain et il y aura tout un itinéraire de marche sur 60 km en bord de mer. En fin d'émission, la rubrique Mondo Blog chez les voisins. Comme chaque semaine, on donne la parole aux jeunes blogueurs et blogueuses francophones.
8 milliards de voisins.
Pour séparer.
C'est une émission pour tous les voisins et toutes les voisines.
8 milliards de voisins, voisines. Construisons la vie ensemble.
Gaëtan Renaud, ces 10 dernières années en France, vous comptabilisez 162 cas de victoire sur des projets inutiles, polluants. Vous avez étudié 42 cas d'école. Comment vous les avez choisis? Dans quel secteur? Quel territoire? C'est sur toute la France?
Exactement. Donc c'est sur toute la France. On a recensé 162 cas de victoire depuis une décennie. Je répète, pardon, que victoire, on veut dire par là l'abandon de ce genre de projet imposé, polluant et inutile. Et donc du coup, pour le choix des enquêtes que j'ai menées auprès de 42 collectifs et associations, j'ai fait attention à avoir une variété à la fois des secteurs de lutte, mais aussi de la géographie de ces luttes-là et de la variété dans le temps de la lutte. On va peut-être revenir dessus sur la temporalité. Mais donc du coup, dans les secteurs, on va avoir une longue liste. Ça peut être des projets agricoles, je pense à des fermes-usines en Bretagne typiquement. Ça peut être des projets liés à l'énergie. Ça peut être des projets d'aménagement comme des centres commerciaux ou des zones d'activité, des projets extractivistes, des autoroutes. Alors j'allais le dire, c'est dans la catégorie transport.
Ouais.
Mais voilà, exactement, des projets extractivistes. Donc je pense à des exploitations forestières typiquement.
Mmh. Et puis dernièrement, projets de gaz de houille en Moselle, voilà, par
exactement.
Exemple, à l'est de la France.
Et puis après des secteurs de tourisme. Je pense particulièrement à des surf parks plus récemment.
Ouais. Des centres de loisirs. Et puis, une méga-scierie dans les Pyrénées, par exemple. Aussi.
Voilà, exactement. Hein. Donc ça, je le mets dans la...
C'est très, très varié. Hein.
C'est très varié. Alors, c'est très varié, mais on constate qu'il y a quand même des similitudes dans ces projets-là. C'est par ailleurs pour cette raison qu'on parle de grands projets imposés et polluants. C'est que c'est une catégorie qui est bien définie dans des projets d'aménagement. Donc, c'est des gros projets qui ont des conséquences environnementales assez désastreuses. Donc, je pense pollution des airs, pollution des eaux et pollution des sols, mais qui ont aussi des conséquences socio-économiques. Donc typiquement, je pense à des sommes d'argent qui sont dépensées inutilement. C'est la moyenne sur les 42 cas de... le total d'argent qui a été
économisé
est de 15 milliards d'euros. Et puis après, dernièrement,
dans ces 15 milliards d'euros, il y a de l'argent public. Hein.
Il y a de l'argent public, préciser, bien sûr. Oui, oui. Donc là, on est en train de discuter de où aller chercher de l'argent dans tous les sens. Ben voilà, là, ce serait potentiellement une option.
Alors, par exemple, il y a Nestlé à Vittel. Hein. 4 associations locales découvrent en 2016 que depuis 40 ans, les prélèvements d'eau pour mettre dans les bouteilles dépassent la capacité de la nappe phréatique. Et puis, il y a aussi les déchets des bouteilles qui sont enterrés et qui polluent les sites. Vous le disiez, donc, ce que vous appelez une victoire, c'est l'abandon pur et simple d'un projet. Hein. Qu'en est-il, par exemple, des projets de méga-bassines pour retenir l'eau, pour alimenter l'agriculture au détriment de la nappe phréatique? Les méga-bassines, ça a été quelque chose qui a été très, très médiatisé ces 2-3 dernières années.
Oui, alors il y en a un petit peu partout sur le territoire, des méga-bassines. Et là, pareil, on retrouve justement l'enjeu un peu systémique. Ce n'est pas juste des conséquences environnementales, c'est aussi tout un modèle de société agricole qu'on veut remettre en question. Et notamment, c'est beaucoup d'argent public qui est dépensé inutilement. Et on sait que c'est un modèle qui ne va pas forcément tenir très longtemps.
Ouais. Et parfois, c'est abandonné, mais c'est abandonné provisoirement.
Voilà. Donc après, peut-être qu'on reviendra sur la notion de victoire. Mais effectivement, la victoire, c'est l'abandon d'un projet. Mais il faudrait aussi qu'il soit réapproprié tel quel, que le mot victoire soit réapproprié par le collectif ou l'association. Et ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'il y a des fois, j'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'en fait, c'est une toute petite bataille gagnée dans la folie des grandeurs de certains aménageurs ou politiciens.
Ça, c'est sûr. Victoire Ossoa, votre enquête, vous, porte sur la ville de Rouyn-Noranda, dans l'ouest du Québec. C'est une ville de près de 40 000 habitants qui est construite autour de la fonderie de cuivre Horn, qui est exploitée par le géant minier Glencore. Ces hauts fourneaux, en fait, ils sont présents depuis près d'un siècle. Hein. Ils ont structuré la ville, ils ont procuré énormément d'emplois. Il y a des familles entières qui ont toujours travaillé pour ces hauts fourneaux. En 2019, il y a une étude de santé publique qui révèle que les enfants de la ville présentent des taux d'arsenic dans le sang bien supérieurs à la moyenne nationale, notamment dans les ongles, ainsi que 23 autres contaminants. C'est une contamination qui se fait par des particules dans l'air, c'est ça? Comment ça fonctionne?
Oui, en fait, donc la fonderie Horn qui jouxte le quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda, donc traite des minerais pour produire du cuivre. Et donc s'en échappent des émanations qui sont chargées en particules fines, notamment de métaux lourds. Et donc moi, je me suis notamment concentré sur la pollution à l'arsenic, qui a malheureusement la caractéristique d'être invisible, inodore. Et donc les habitants de ce quartier et par extension du reste de la ville ont ingéré à la fois par l'air et en touchant la terre, en touchant les sols, parfois même en mangeant les légumes de leur jardin, de l'arsenic à très haute dose sans en avoir connaissance depuis des années.
Ouais. C'est une petite ville qui est très tranquille. Hein. Le soir après le travail, l'été, on va se baigner dans le lac. C'est une ville où il fait bon vivre, à l'œil nu, comme ça.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est une ville très agréable au demeurant, en plus avec beaucoup d'activités culturelles. D'ailleurs, qui ont été aussi permises par l'activité de la fonderie, qui génère énormément de chiffres d'affaires et qui s'implique, il faut quand même le dire, dans la vie culturelle de la ville et qui crée un lien d'appartenance très fort des habitants avec cette fonderie.
Oui. Alors, il y a des conséquences sur la santé, des taux élevés de maladies pulmonaires, de cancer du poumon, de naissances d'enfants de faible poids, qui seraient directement liés à l'exposition à des niveaux élevés d'arsenic et d'autres métaux toxiques. Comment se fait-il qu'il ait fallu plus d'un siècle pour s'apercevoir qu'élever ses enfants dans cette ville, c'était mettre leur santé en danger? Comment on attend 2019?
Comme je le disais, l'arsenic, c'est totalement invisible, inodore. Donc il y avait eu des mobilisations à la fin du XXe siècle sur d'autres types de pollution qui, elles, étaient plus visibles. Et donc il y avait eu des succès obtenus déjà par les habitants de la ville à l'époque. Mais il se trouve que, encore une fois, l'arsenic étant invisible, il n'y avait pas eu de mobilisation spécifique autour de ce produit-là. Et en fait, c'est une quasi banale étude de santé publique qui a été menée en 2018 et révélée en 2019. Qui a fait prendre conscience aux parents, puisque c'était sur leurs enfants qu'a été menée cette étude, Oui, il y avait des taux qui étaient bien trop élevés par rapport à la norme nationale.
C'est un énorme choc pour les habitants qui vont évidemment se mobiliser. On va y revenir, hein, Gaëtan Renaud et Grégoire Ossoa. Vous allez rester avec nous. On va voir quelles sont les méthodes employées par ces citoyens ordinaires, hein, qui se mobilisent, qui ne sont pas des militants professionnels, bien souvent ni très politisés d'ailleurs. Par quel mécanisme les luttes l'emportent sur les projets polluants? Quand on parle des luttes pour la défense de l'environnement, d'ailleurs, je peux vous dire que les artistes se mobilisent. Voici tout de suite la sélection musicale de notre réalisateur Romain Dubrac, un bijou de journal rappé avec un seul titre à la une, Oil United versus Green Team. Au micro des Sénégalais, Rouman et Katie, alors eux, ils dénoncent le sponsoring de la Cannes 2023, de la Cannes 2024, pardon, par Total Energy.
Bonjour, c'est le journal rappé, monsieur Rouman, monsieur Katie, en direct de la Coupe d'Afrique. Restez connectés. Hey, bienvenue à tous à la Coupe d'Afrique des Nations des énergies toxiques. Installez-vous et soyez témoins de ces moments historiques. C'est un match incertain où chacun peut faire mentir les pronostics. On va en parler encore dans 100 ans comme la vie d'un déchet plastique. C'est le choc opposant les pétroliers et les écolos. C'est deux styles qui s'affrontent, deux mentalités, deux écoles. Tout le noir vêtu de la tête aux chaussettes, les Oil United, accusés de pollution et de dribbler la justice avec ses trafics. En maillot vert, couleur forêt, on les confondrait même avec le gazon. Chez la Green Team, tout est bio, de la tête à la pointe des crampons. Et c'est d'ailleurs pour rester en phase avec leurs principes et leur éthique qu'ils ont catégoriquement refusé de jouer sur terrain cette éthique.
Un instant, Rouman. On me signale un incident, aux abords du stade c'était évident. Ainsi va l'ambiance ici depuis des mois. Le bilan c'est maintenant, Oil United a débarqué avec ses oiligans. Une vraie tâche, oui, gâte une fête continentale comme la Cannes. Récemment en Ouganda, ils ont divisé le pays totalement. En RDC, des hectares de terre agricole dégradés totalement, déversant le pétrole totalement, l'environnement saccagé totalement. Le pétrole qui s'écoule en Ogoniland l'a empoisonné totalement.
Dormir la défense et bloquer les attaques, c'est comme ça totalement. L'éco-responsabilité, ils bottent en touche, je dis totalement. Disqualifié pour la transition énergétique, oui, totalement. Carton rouge pour les émissions de carbone, totalement.
Publicité.
At Total Energies, we are proud to be sponsoring the Africa Cup of Nations. In the words of our white male European CEO,
we are proudly At Total, we love football almost as much as we love oil and money.
And we love AFCON because it is one of the most watched football tournaments in the whole world.
So that means more money.
Eyeballs.
Eyeballs for us.
Cha-ching! It's a goal!
What's not to like?
C'est le retour du direct, ça chauffe ici, on dirait effet de serre. Atmosphère de guerre, tension dans l'air, supporters sur les nerfs. Allons sur le terre-terre, point la température avec notre reporter. Dirty, allô,
allô,
tu es en sécurité,
allô,
on espère.
Allô, Rouman, atmosphère étendue, on supporte, la pression est montée. Pour pouvoir effectuer ce compte-rendu, sur mon talent de coureur, j'ai dû compter. Entre écolo, Oil United, une bagarre est partie, les mogos se lapident. Les uns dénoncent les magouilles, les pratiques, les pressions étatiques, les enjeux climatiques, non. Ce sont de fausses accusations. Les pétroliers disent mener des actions pour la formation et l'éducation. Soutiennent des programmes de réforestation. Énergie renouvelable, un discours de novellas. Diversion sur les vrais problèmes, sa tâche diverse. Il veut être leader de l'énergie verte. Là, pour les écolos, c'est la goutte de taureau qui déborde du baril. Ouais, le fair play, si l'objectif c'est de faire blé et nous rouler dans la farine. Longtemps que ça dure, tacler la nature, maintenant c'est plus possible. Quand l'amour est pollué, la relation est totalement toxique.
C'est le match de tous les dangers. Aïe, bakananek ange. Ça va empirer, faut changer. Yen yi manul ande. Dembak tay lunchi jang. Prenons des décisions sensées. Sauf si mege gane tang, la terre est en mauvaise santé. On aime le foot mais pas les pollueurs.
On aime le foot mais pas les pollueurs.
On a une seule terre, y'en a pas plusieurs.
On a une seule terre, y'en a pas plusieurs.
L'éco-blanchiment ne va pas laver vos péchés toxiques totalement. Car vos actions globales ont aussi des conséquences localement.
Localement, 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 localement.
Vous écoutez écoutez RFI, 8 milliards de voisins, et on est en compagnie de Gaëtan Renaud, le co-auteur d'une étude intitulée « Quand la lutte l'emporte, une décennie de victoires contre les projets imposés et polluants ». Et Grégoire Ossoa, journaliste, vous publiez à Tome 33, « Histoire d'une lutte collective contre une pollution industrielle ». Ça se passe dans une petite ville au Québec. Gaëtan Renaud, dans l'ensemble des cas qui figurent dans votre étude, comment se positionnent les industriels, les multinationales, les porteurs de projets industriels? Avec quels arguments? Comment choisissent-ils le territoire où ils souhaitent implanter le projet qui va poser problème et qui va ensuite donner naissance à une lutte collective? Comment sont construits les arguments?
C'est une très bonne question et auquel j'ai quelques éléments de réponse, mais je dois dire que je n'ai pas interrogé les industriels directement, donc c'est un peu que des suppositions. Mais effectivement, on sait que les industriels, du coup, il y a certaines étapes avant que le projet se réalise, et notamment il y a une phase de pré-faisabilité où les industriels vont chercher des zones où le projet est propice, donc c'est-à-dire à faible densité démographique par exemple, ou s'il y a des élus qui peuvent être complaisants avec un certain type de projet, et voilà, ils vont tout faire pour qu'il n'y ait pas de réaction au niveau local sur leur projet. Après, du coup, ce qui est assez difficile aussi, c'est que on constate qu'il y a systématiquement un déni de démocratie, dans le sens où il y a de la rétention de l'information par les porteurs de projets. Donc du coup, c'est très difficile pour les citoyens et les citoyennes qui luttent contre ce genre de projet d'aller à la cherche aux infos, en fait. Parce qu'en fait, soit ils sont dissimulés, soit ils sont masqués. Pour vous donner des exemples sur les éléments de langage, on va parler de détournement au lieu de parler d'une autoroute, on va parler de hangar à camion au lieu de parler d'un entrepôt Amazon, on va parler de retenue d'eau au lieu de parler de bassine. Donc c'est toutes petites nuances, en fait, qui font que des fois les personnes ne réalise pas l'ampleur forcément du projet avant qu'il soit trop tard.
Grégoire Ossoa, vous aussi, pour la pollution à l'arsenic des hauts fourneaux de la ville de Rouyn-Noranda dans l'ouest du Québec, il y a de la rétention d'informations de la part de Glencore, le géant minier?
En tout cas, de la rétention d'informations, ça me paraîtrait être une accusation un peu gratuite, mais je dirais qu'on a affaire, comme le disait Gaëtan, soit à des professionnels de la communication qui manient très bien le langage, qui vont mettre en avant leurs engagements sociaux, environnementaux, qui, après, chacun jugera, sont peut-être plutôt de l'affichage qu'autre chose, mais voilà, à chacun de se faire une idée. Voilà, qui vont aussi dire qu'ils sont ouverts à la discussion, et ça, c'est la partie, on va dire, publique, et puis qui vont aussi manier un fort lobbying envers les pouvoirs publics, et donc essayer de faire pression sur les pouvoirs publics pour obtenir ce qu'ils souhaitent.
Ce qui veut dire qu'en face, quand les citoyens, les habitants souhaitent se mobiliser pour protéger leur territoire, hein, le lieu sur lequel ils vivent, il faut qu'ils acquièrent des connaissances techniques. Sur des projets miniers, par exemple, il faut des connaissances très techniques. Il y a un des habitants transformés en activistes dans votre étude, Gaëtan Renaud, qui dit « On est parti sans rien connaître pour lutter. On ne connaissait pas le code minier, on ne savait pas ce qu'était une enquête publique. On a vraiment réinventé l'eau froide pendant les 2-3 premières années. » C'est-à-dire qu'ils commencent par tâtonner et ils perdent beaucoup de temps, forcément, par rapport au projet industriel en face.
Exactement. Et cette notion de gagner du temps est primordiale dans une lutte. Toutes celles et ceux qui luttent savent que, en fait, dès que le projet est installé, c'est trop tard. Donc, il faut agir très, très vite. Après, ce n'est pas forcément tous les cas où il y a peu d'expérience. Il peut y avoir des cas où il y a des associations et des collectifs locaux qui sont très vigilants et qui ont déjà un savoir-faire et un savoir, entre guillemets, technique de la lutte. Et ça, c'est ce qui peut procurer des victoires éclairs de quelques mois ou quelques années. Et puis après, souvent aussi, il y a des cas où effectivement les gens réinventent l'eau chaude. Et là, il faut aller chercher les informations. Donc du coup, ça veut dire que concrètement, que des liens avec des scientifiques notamment, avec des naturalistes, ça dépend beaucoup du projet. Typiquement, je prends le code minier ou alors le sujet de la méthanisation, qui peut être très très compliqué, surtout à large échelle.
Les méthaniseurs, on va peut-être dire ce que c'est.
Voilà, les méthaniseurs, c'est un
processus. Produire de l'énergie grâce à des éjections animales. Hein.
Voilà, et sauf qu'en fait, à très grande échelle, on va les intrants pour la méthanisation, donc le lisier, le fumier, en fait, on va commencer à déforester des terres pour produire pour de la méthanisation, sauf qu'il y a beaucoup de déchets aussi liés à ça, surtout, encore une fois, quand c'est fait à très grande échelle.
Ce qui devait être un projet de réutilisation de déchets déjà existants, devient un projet de production de déchets qui ne serait pas là s'il ne fallait pas alimenter le méthaniseur.
Voilà, donc, exactement.
Effectivement, c'est ce qui s'appelle marcher un peu sur la tête. La méthode, à chaque fois, c'est de prouver le caractère non essentiel du projet, hein, c'est ça. Mais ensuite, il faut s'approprier les savoirs, les traduire aux autres citoyens ordinaires pour les rendre compréhensibles et pour que la majorité des habitants puissent se faire leur propre opinion. Ça devrait être le travail des pouvoirs publics, a priori, non, il me semble.
Ouais, ça, c'est pas à moi de le dire, mais oui, enfin oui. C'est un petit peu ce que j'ai appelé dans justement cette phase d'information et de prouver le caractère non essentiel d'un projet, pour ne pas dire l'absurdité de certains projets. Du coup, c'est ce que j'ai appelé le produire, traduire, diffuser. Dans le sens où il faut produire de l'information, comme cette information-là n'est pas forcément disponible au grand public, il faut la traduire pour qu'elle soit compréhensible. Et là, c'est important, je pense, de montrer l'enjeu systémique des impacts que peut avoir un projet pour que chaque personne puisse dire qu'en fait, ils sont contre un projet pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, écologiques, démocratiques ou autres. Et ensuite, il y a la diffusion. Et donc, du coup, ça va être plus des techniques de communication. Ça peut être du tractage, ça peut être l'influence des réseaux sociaux, ça peut être des manifestations, des rassemblements et ce genre de choses, des marches pédagogiques, notamment pour redonner du pouvoir à des citoyens pour qu'ils puissent se saisir des enjeux et se former justement cette opinion.
À Rouyn-Noranda, au Québec, hein, dans cette petite ville de 40 000 habitants donc, qui présente des taux de pollution à l'arsenic tout à fait anormaux et à d'autres métaux lourds, Grégoire Ossoa, quelles ont été depuis 2019, donc date de la publication d'une vaste enquête de santé publique sur ces habitants, sur les enfants surtout, quelles sont les méthodes employées à partir de citoyens ordinaires, hein, parce qu'on va voir que au départ, ce sont beaucoup des parents d'élèves qui se mobilisent, mm-hmm. des mères hein, ordinaires qui ont une vie banale, qui tout d'un coup vont se retrouver face aux médias, face aux caméras des médias canadiens pour dénoncer la situation.
Mm-hmm. Oui, bah d'abord il y a le choc de l'information, d'apprendre voilà qui sont potentiellement intoxiqués, et puis après en effet il y a passer la sidération. Comment faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et donc oui, comme on vient de le dire, il y a toute une phase où il va falloir beaucoup s'informer, comprendre. Et en effet, on a un métier, on est kiné, on est caissier. Et puis du jour au lendemain, il faut comprendre comment une mine fonctionne, comprendre comment l'arsenic agit sur le corps humain. Donc ça, c'est moi, j'ai trouvé ça très impressionnant, la manière dont les gens vont se libérer du temps et voilà, échanger des connaissances entre eux. En effet, parfois mobiliser des ressources extérieures. On parlait de rétention d'informations tout à l'heure, et même parfois mobiliser le tribunal administratif pour obtenir des informations qui doivent normalement être rendues publiques. Et à partir de là, voilà, une fois qu'on a un socle suffisamment solide, oui, là, l'étape 2, c'est de mobiliser, en effet, les médias, parce qu'il faut faire connaître, parce que, in fine, c'est ce qui va faire bouger les décideurs publics.
À Rouyn-Noranda, il y a des groupes de surveillance indépendants qui ont été formés hein, pour mesurer les niveaux de pollution, parce que là aussi, il n'y avait pas de confiance dans les autorités sanitaires du pays.
Bah, disons que les premiers à avoir lancé l'alerte, ce sont les services de santé publique locaux, mais ils n'ont pas été après appuyés, suivis ni par le ministère de la Santé au niveau national, ni par le ministère de l'Environnement, encore moins par le ministère de l'Économie. Et donc, moi, ce qui m'a assez fasciné, et d'ailleurs même peut-être dérouté quand j'ai commencé cette enquête, c'est que vous allez avoir beaucoup d'habitants, rarement individuellement, mais par petits groupes, qui vont chacun mener une action, et voilà, sans véritablement se coordonner. Il n'y a pas une tête de réseau plus importante qu'une autre, mais voilà, des petits groupes, parfois tout à fait informels, parfois enregistrés quand même comme association. Et en fait, tout ce petit monde travaille en intelligence. Voilà, et chacun apporte ce qu'il sait faire quelque part. Voilà, y a des gens qui sont très cérébraux, qui vont arriver à produire des rapports très fiables. D'autres qui sont beaucoup plus dans l'action, l'interpellation. Donc, ils vont aller faire des actions de quasi désobéissance civile. Et donc, c'est toute cette synergie qui fait que, voilà, ils ont réussi à faire la lumière sur cette ville, comme vous le disiez, qui est plutôt petite à l'échelle du Québec.
Et faire connaître Rouyn-Noranda, pas seulement pour son art de vivre. On écoute une habitante de Rouyn-Noranda, dans l'ouest du Québec, Marthe Julien, qui accuse les autorités québécoises dans le dossier de la fonderie Orne. On est en 2022.
Ce qui me choque profondément aussi, c'est que la loi, c'est la loi. 3 nanogrammes, c'est pour tout le monde. C'est difficile à comprendre pour moi en tant que citoyenne. Puis, c'est difficile de penser que mon gouvernement Lorsque mon député régional nouvellement élu, je m'aperçois que c'est un lobbyiste pour les mines, c'est difficile pour moi de penser que le gouvernement se soucie des populations qui vivent sur des territoires où il y a des mines. Il n'y a pas de volonté politique. Il y a du patinage artistique.
Belle formule, il n'y a pas de volonté politique, il y a du patinage artistique. Le député en question qui est cité par cette habitante, hein, Marthe Julien, est accusé d'être au service des intérêts du géant minier Glencore, c'est Daniel Bernard. On voit bien qu'il y a aussi une extrême politisation dans ces situations-là. Dans quelle mesure il y a des tentatives de récupération des citoyens qui se transforment en militants ou pas? Dans le cas de Rouyn Noranda, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, Grégoire Ossoa, avant qu'on passe à d'autres exemples en France?
Oui, alors après, il y a des partis politiques qui sont plus sensibles à ces thématiques-là, à la pollution environnementale, à la pollution industrielle, à la santé. Donc oui, il y a des accointances avec certains partis politiques, mais en tout cas, dans le cas de Rouyn Noranda, ça n'a pas été récupéré. Il y a beaucoup de militants sur place qui voilà, sont éloignés des partis.
Mais il y a le Premier ministre du Québec, Legault, qui a changé d'attitude et de position sur la pollution du géant minier Glencore.
Oui, alors ça,
au
c'est
fil des années.
Ça, c'est probablement le fruit, en effet, de la mobilisation locale, la mobilisation citoyenne. Et peut-être de quelques pressions politiques d'autres partis. Il y a notamment une députée, Émilise Lessart-Terrien, qui donc était la députée avant l'arrivée de Monsieur Bernard, qui a beaucoup relayé et qui a en fait fait son rôle de députée aussi, qui a relayé la parole des citoyens.
Ça, parce qu'il est passé d'une position, le premier ministre Legault, de dire en 2019 « Non, mais c'est pas du tout si embêtant que ça pour la santé, ces taux d'arsenic, parfois 60 fois supérieurs au taux normal, c'est pas grave ». Bon, il n'est pas médecin, hein, donc les citoyens se scandalisent. Hein, au nom de quoi parle-t-il? Et puis finalement, au fil des années, il finit par dire que oui, il faut absolument que Glencore dépollue, diminue les émissions de métaux lourds.
Oui, alors comme tout politicien, il sait que pour se faire élire, il ne faut pas non plus trop se braquer la totalité des électeurs. Il sait que là, on touche quand même à la santé d'enfants, donc c'est un thème assez sensible. Et puis, il y a aussi quand même, il faut le dire, une part de bluff, je pense. Voilà, quand il menace de faire fermer l'usine... Quelque part, il sait aussi qu'il va aller mettre un peu un coup de pied dans le débat parce qu'en fait, là-bas, sur place, personne n'a intérêt à la fermeture de l'usine. Et d'ailleurs, ça n'est pas ce que demandent les habitants. Les habitants demandent à ce que l'usine soit équipée de filtres pour qu'il n'y ait pas de pollution à l'arsenic. Et donc, voilà, c'est un mouvement politique, une déclaration un peu pour mettre les habitants un peu en porte-à-faux. Or, les habitants, eux, ont besoin de cette usine pour vivre. Et donc voilà, je me garderais bien d'interpréter, de dire qu'il serait du jour au lendemain devenu très pro-environnemental, très voilà, pour cette fermeture-là. J'ai l'impression que c'était plus un coup politique.
Est-ce que il y a parfois dans ces mobilisations de citoyens des alliances opportunistes, voire contre nature, Gaëtan Renault, des syndicats qui peuvent rejoindre des luttes locales alors que traditionnellement ils défendaient les création d'emplois et le tissu industriel et ouvrier, par exemple.
Non, mais je pense que c'est très bien ce que rappelait Grégoire aussi, c'est que les personnes ne sont pas forcément contre l'usine, mais contre une manière d'opérer cette usine-là, justement sans filtres environnementaux. Et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de cas aussi, où typiquement les syndicats et les personnes qui luttent contre des projets, ils ne sont pas contre les emplois, ils ne sont pas contre les stations de ski. Non, en fait, ils veulent juste qu'on repose un peu certaines bases par rapport aux conséquences environnementales sur la santé des gens. Et du coup, les alliances, elles sont multiples. Il peut y en avoir avec des coalitions de lutte aussi. Je sais qu'il y a une coalition qui s'appelle la Résistance aux fermes-usines qui a commencé en Bretagne, qui est devenue une coalition nationale et qui est maintenant européenne.
Vous pouvez nous rappeler juste ce que c'est qu'une ferme-usine ?
Oui, ça va être des élevages, notamment porcins ou poulaillers, où il va y avoir 300 000 poules, par exemple, entassées dans un bâtiment qui ne voit pas la lumière du jour et qui... Bon, voilà, il y a plein de rejets, notamment qui... Voilà, liés aux algues vertes en Bretagne, il y a des corrélations assez directes là-dessus. Donc voilà, les alliances sont multiples et l'objectif, ça va être de voir qui peut faire quoi. et de travailler en synergie.
Il y a des victoires qui vous semblent particulièrement des cas d'école, qui vous ont marqué, vous, en travaillant sur cette étude ?
Alors, il y en a plein, c'est ce qui était fascinant. J'ai pu parler et découvrir plein de luttes très hétérogènes. Je pense qu'il y en a une qui est marquante. Vous avez parlé un petit peu d'alliance surprise. Il y en a une, c'était un projet de hommage aux héros en Normandie que les militants et les opposants ont rebaptisé le D-Day Land. Et en fait, l'idée, c'était de construire un musée dynamique par rapport à la guerre et le débarquement en Normandie. Sauf que le porteur de projet avait dit sur une radio que l'objectif, c'était de retenir les touristes un petit peu plus longtemps. Et donc, du coup, les opposants ont trouvé ça révoltant, en fait, de parler de la mort milliers de personnes et d'en faire un business. Et donc là, il y a eu des alliances avec tous les vétérans, notamment états-uniens, canadiens et anglais, qui ont inondé la région Normandie de lettres en criant au scandale, en disant... Et en plus, c'est des témoignages qui sont hyper... hyper poignants, parce qu'ils racontent comment leur grand-père est mort sur ces plages-là. Ils n'ont aucune envie que ça soit repris pour du business et pour du pognon.
Aujourd'hui, quelle est la situation, Grégoire Ossoa, à Rouyn-Noranda ? Est-ce que les luttes des habitants ont vraiment obtenu quelque chose ? Est-ce que vous diriez que Rouyn-Noranda, c'est aussi l'histoire d'une victoire, hein, sur ces hauts fourneaux ?
Alors moi, j'aime bien le dire, parce qu'ils ont obtenu, depuis 2019, une très nette diminution des émanations d'arsenic de l'usine. Donc ils ont un peu contraint, forcé les pouvoirs publics à intervenir, à agir pour ça. Voilà, après, sur place, c'est vécu un peu différemment par les habitants qui attendent que vraiment ces émanations diminuent jusqu'à atteindre la norme nationale, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Et puis, eux aussi vivent avec l'idée qu'ils sont pollués, intoxiqués. Mais moi, d'un point de vue extérieur, je trouve que en partant de rien, en si peu de temps, voilà, ils ont obtenu des résultats énormes.
Bon, il y a eu des sanctions imposées, mais avec des amendes assez dérisoires quand même.
C'est surtout la baisse du taux d'émanation d'arsenic qui est leur plus importante victoire à mes yeux. Ils sont passés ça ne va rien dire aux auditeurs, mais au moins les ordres de grandeur, c'était 100 nanogrammes par mètre cube dans l'air il y a 4-5 ans, et maintenant ils en sont à 15. Et ils espèrent diminuer d'ici quelques années à obtenir 3 qui serait la norme.
Alors il y a bien sûr aussi des mobilisations qui échouent. Est-ce que l'usure militante, vous diriez, Gaëtan Renaud, dans quelle mesure ces regroupements d'habitants qui sont confrontés à l'usure, à la lassitude, parce que c'est presque un job à temps plein, hein, de se mobiliser à la fin de sa journée de travail sur des actions en justice aussi qui peuvent prendre plusieurs années, c'est le plus gros danger, l'usure militante, hein.
Il faut faire attention. Juste pour rappeler que du coup, sur le travail de recensement que j'ai fait, la moyenne du temps de la lutte d'une victoire est de 7 ans. Après, la médiane est de 3 ans, mais donc du coup, il peut y avoir des victoires éclairs de quelques mois, quelques années, mais des fois, ça peut durer 50 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, effectivement, c'est le combat de toute une vie. Et encore une fois, c'est effectivement, vous le rappelez bien, sur du temps bénévole. Et non seulement c'est du temps bénévole, mais c'est aussi de la lutte. Donc, on n'est pas forcément soutenu par toute la population, par les élus locaux, par les industriels, etc. Donc, on est un petit groupe de militants et de militantes. Et c'est un peu David contre Goliath. Ouais. Et donc, face à ça, il faut aussi... je pense que la plupart des gens m'ont quand même parlé de trouver de la joie dans la lutte. Et beaucoup de militants et militantes parlent de ça et du soin qu'il faut s'apporter dans les relations. Parce qu'effectivement, ça peut être exténuant. Et d'ailleurs, le premier mot qui vient aux bouches des militants, des personnes que j'interroge lorsqu'ils obtiennent l'abandon d'un projet, c'est le soulagement.
Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, tous les deux, Gaëtan Renaud. Je vais quand même rappeler, ça s'appelle « Quand la lutte l'emporte, une décennie de victoire contre des projets imposés et polluants ». Donc ça, c'est une étude qui a été commanditée par l'association Terre de Lutte et la revue Silence. Silence, c'est bien ça. Et Grégoire Ossoa, votre livre, c'est « Atome 33, histoire d'une lutte collective contre une pollution industrielle ». Ça se passe dans l'ouest du Québec. Ça sera publié dans quelques jours aux éditions...
Marchali.
Voilà. Vous restez donc avec nous. On va quitter les luttes pures et dures pour regarder du côté de la sensibilisation des citoyens. Dans quelques secondes, nous allons donner la parole au président de l'association mauritanienne pour l'environnement, le cinéaste Abderrahmane Sissako, qui organise à partir de ce samedi une marche bleue pour la préservation des zones humides en Mauritanie.
8 milliards de voisins et de voisines.
Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin.
Direction donc la Mauritanie, nous sommes en ligne avec le cinéaste Abderrahmane Sissako, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes le président de l'association mauritanienne pour l'environnement qui organise donc à partir de samedi prochain une marche bleue pour la préservation des zones humides en Mauritanie. Dites-nous, Abderrahmane Sissako, vous qui êtes cinéaste, comment est né votre engagement concret sur ce sujet? Je précise que vous habitez à Nouakchott, qui déjà est une ville où l'avancée du désert saute aux yeux.
Oui, je pense que tout simplement en tant qu'on peut être cinéaste, médecin, ingénieur, chauffeur de bus, on doit être concerné par l'environnement qui nous entoure. Et donc je pense à ça, je me suis toujours posé la question de mon investissement dans ma société, pas seulement en tant qu'artiste, cinéaste, mais qu'est-ce que je peux apporter à la société. Et je ne suis pas seul, bien évidemment, on protège... Et dans le Trarza, dans une zone sèche, et une forêt, une grande forêt
d'acacia
qui est en danger, comme toutes les forêts en Mauritanie, parce qu'il y a le charbonnage et qui est une activité humaine terrible. On coupe le bois pour faire du charbon dans un pays désertique. Donc le réflexe pour moi a été de sauver, d'aider, de protéger cette forêt, mais le protéger avec les populations qui vivent autour. Moi, je ne vis pas là-bas, mais ce lieu est entouré de villages, des gens qui habitent là-bas. Donc, c'est important pour nous, en tant qu'association, d'être d'abord en lien avec la population qui vit au quotidien, de ne pas être le gendarme qui vient protéger la forêt. Ça, c'est la première chose. Et donc, il a fallu tout de suite mettre en place, créer une association pour que ce ne soit pas une action personnelle, une action de tout le monde, parce qu'on est tous concernés.
Alors, la marche, c'est du 1er au 9 février, sur un itinéraire de 60 km. Vous partez donc vous partez bien de Nouakchott pour arriver jusqu'à la zone humide de Tambas-Lobudou, c'est ça?
Absolument. Donc, c'est plus de 60 km. 60 km, c'est sur l'océan. Vous savez, la Mauritanie, c'est 750 km sur l'océan. Donc nous marcherons sur les 60 km qui va nous prendre un peu 2 jours et demi, disons 3 jours même. Et après, nous quittons l'océan pour aller sur la route du sud qui va vers Rosso Mauritanie, Rosso Sénégal. Donc en descendant, on a des arrêts dans certaines villes comme Tiguint, avant d'arriver où Bombri. Donc ce sont des petites villes, des petits villages, mais qui sont des lieux de sensibilisation. Alors, la population, il y a des gens qui vivent là-bas, il y a une sensibilisation sur l'environnement, mais aussi sur la salubrité, sur le nettoyage, le ramassage. Vous savez, le plastique est un phénomène mondial.
Donc, ça, c'est un autre problème. En effet, Abderrahmane Sissako, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Votre engagement au village aussi, c'est une vie parallèle par rapport à votre existence internationale de cinéaste. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Et donc, cette marche bleue, c'est bien du 1er au 9 février à partir de Nouakchott jusqu'à la zone humide de Tambas-Lobudou pour sensibiliser à l'environnement et à l'enjeu des zones humides. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous.
200 km de marche, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Abderrahmane Sissako. À suivre, Mondo Blog chez les voisins, le meilleur de la blogosphère francophone. Ce sera d'ailleurs question d'économie d'eau en agriculture avec le modèle de l'aquaponie, un modèle pour l'avenir. Ce sera juste après Arma Jackson en playlist RFI.
Toujours dans ma bulle, quand j'étais petit, je rêvais d'aventure. Toujours arrivé, je voulais esquiver la réalité. Tout le temps dans mes pensées, j'avais en esprit des choses insensées. Plus casque aux oreilles, fermé dans ma chambre. Et soudain, je me sens sexy, je me sens comme Elvis, je me sens comme Denzel, je me sens fantastique, je me sens artiste. Et j'ai la danse, le jeu de jambes, quand elle demande. Je me sens renaître,
je me sens ailleurs, je me sens plus le même. Quand maman passe devant ma chambre, et qu'elle entend, la journée je reste calme, mais quand je rentre chez moi, je m'enferme à clé, à double tour, et tous les jours, je danse comme dans Rousberg. Je danse comme dans Rousberg. Des périodes et des phases. Donc je danse pour oublier qu'elle est fat. Et quand je lui donne un peu d'estime, mes skins, je finis toujours un peu déçu. Je danse comme si j'oubliais mes limites. Qu'il y avait plus cri, riez-moi sur la piste. Je mets le casque, c'est la fête. Et je m'éclate comme si j'avais rien à perdre. Et je m'éclate comme si c'était moi la fête. Et je vis la vie comme si j'en avais deux. Je mets le casque, je ferme la porte et je manque le volume au maximum. Ils pensent que je suis triste parce que je m'isole, alors que je suis triste rien qu'avec eux. La journée je reste calme, mais quand je rentre chez moi, je m'enferme à clé, à double tour, et tous les jours je danse comme dans Rousberg. Je danse comme dans Rousberg.
Et maintenant, chez 8 milliards de voisins en direct sur RFI, Mondoblog chez les voisins pour découvrir les meilleurs articles de la communauté des blogueurs et des blogueuses francophones de RFI. Bonjour Alar Zam.
Bonjour Emmanuel.
Aujourd'hui, vous relayez un article qui évoque une solution innovante pour la gestion de l'eau et de l'agriculture, l'aquaponie. Expliquez-nous.
Alors, c'est un article de Shamsuddin Baghiri, blogueur et journaliste béninois de 32 ans, qui nous explique comment il a découvert l'aquaponie, qui est une méthode agricole circulaire qui allie l'élevage de poissons à la culture de plantes dans un cycle écologique fermé.
Vous connaissez l'aquaponie ? Je l'ai découverte en 2021 quand je travaillais avec la fondation Ubi Vinciana Paracon. C'est un système qui recycle et valorise l'eau, une ressource de plus en plus rare, et ça m'a tout de suite fasciné. L'aquaponie, ce n'est pas seulement pour produire des légumes ou des poissons, c'est une véritable harmonie avec la nature. Pas de produits chimiques, moins de pollution et surtout une agriculture durable. En 2022, à Dakar, lors d'un atelier sur les enjeux de l'eau, j'ai compris à quel point cette solution pouvait transformer des vies. Ici au Bénin et en Afrique en général, des initiatives locales émergent, mais elles doivent être renforcées car il y a encore des défis à relever. Avec un vrai soutien politique et économique, l'aquaponie pourrait révolutionner les communautés. C'est plus qu'une technique, c'est une vision pour demain. Et demain, c'est maintenant qu'on le prépare.
Alors Alar Zam, techniquement, dites-nous comment fonctionne l'aquaponie qui est décrite dans son article.
Eh bien, techniquement, les poissons produisent des déchets riches en ammoniac, transformés par des bactéries en nitrates, qui est un engrais naturel pour les plantes. Ces dernières, en absorbant ces nutriments, purifient l'eau, qui retourne ensuite vers les poissons. Ce système permet d'économiser jusqu'à 95% d'eau par rapport à l'agriculture classique, ce qui représente une solution puissante, surtout en Afrique.
Et l'aquaponie semble très prometteuse en effet. Qu'en est-il de son adoption mondiale ? Est-ce qu'il y a déjà ce qu'on peut appeler un marché de l'aquaponie ?
Tout à fait, et ce marché est en plus en pleine expansion. Il est estimé à 1,2 milliard de dollars en 2024 et presque 2 milliards en 2029. L'Amérique du Nord, naturellement avec les moyens dont elle dispose, domine actuellement ce secteur.
Alors, et en Afrique, côté de comment ça, il y a déjà un marché sur le continent africain ?
Alors, en Afrique, l'aquaponie reste effectivement émergente. Des projets innovants existent, notamment au Sénégal et au Burkina Faso. Mais pour qu'elles prennent de l'ampleur, il faut quand même surmonter certains obstacles.
Justement, on a entendu Shamsuddin Baghiri évoquer des défis. Quels sont ces obstacles majeurs au développement de l'aquaponie ?
Bon, on a d'abord le coût des installations qui reste relativement élevé. Monter un système demande des équipements spécifiques, des pompes, des tuyaux, des filtres. Puis il y a également le manque d'expertise technique. Et enfin, en Afrique, l'accès à une énergie fiable, surtout en zone rurale, peut poser un véritable problème. Mais avec une solution, avec des solutions comme l'énergie solaire et un soutien politique et économique accru, ces défis pourraient être surmontés.
Et au-delà du continent africain, l'aquaponie pourrait devenir un modèle global ?
En tout cas, Shamsuddin est très optimiste. Il pense que l'aquaponie est une solution universelle. Elle économise l'eau, réduit la pollution et offre une double production durable de légumes et de poissons. Il espère qu'avec les pressions du changement climatique, elle devienne un pilier de l'agriculture du futur.
Alors, c'est ce qu'on souhaite. En tout cas, pour approfondir le sujet, je vous invite à découvrir l'article complet sur KPA Ron Barou, c'est ça ? Pas Ron Barou.
C'est ça.
Mondoblog.org. Et puis maintenant, direction la Guinée, où l'on retrouve l'un de vos blogueurs qui livre un regard drôle, décalé sur le rapport des Guinéens au temps. C'est l'art d'être toujours en retard. Hein. C'est bien ça.
C'est bien ça. Ou le retard chronique ou stratégique fait phénomène bien connu en Guinée selon Alpha Omar Baldé, blogueur et journaliste de 33 ans. Dans son article que l'on peut consulter sur doudoufine.mondoblog.org, il décrypte avec beaucoup d'humour cette culture de la flexibilité horaire entre anecdotes personnelles et réflexions sur le respect du temps.
Je suis guinéen et s'il y a un domaine où mes compatriotes excellent, c'est bien dans l'art du retard. Chez nous, l'heure n'est pas une contrainte, c'est une vague suggestion. Un rendez-vous fixé à 19h, si vous arrivez à 20h30, vous êtes encore largement dans les temps. Et ceux qui arrivent à l'heure passent souvent pour des naïfs ou des étrangers. Une fois, j'ai voulu jouer le ponctuel. J'arrive bien habillé, prêt à profiter d'une belle soirée. 19h, je suis là, mais rien. Pas de musique, pas d'agitation. Un sourire gêné des organisateurs. On est presque prêt, juste 30 minutes de patience. Traduction. Installe-toi, ce n'est que le début de l'attente. Et effectivement, 30 minutes plus tard, toujours rien. Finalement, tout démarre à 20h25. Chez nous, on appelle ça être à l'heure. Soyons honnêtes. Qui parmi mes compatriotes respecte vraiment l'heure d'un rendez-vous? La plupart d'entre nous avons adopté une technique bien rodée. On arrive toujours en retard stratégique, en sachant très bien qu'on ne manquera de rien. Mais pourquoi sommes-nous toujours en retard? C'est pas forcément par manque de respect, c'est juste une habitude, une seconde nature. Une heure de rendez-vous, c'est une simple indication. D'ailleurs, si quelqu'un vous dit « j'arrive dans 5 minutes », cela veut dire je suis encore chez moi, mais je pense à toi. Pourtant, soyons sérieux un instant. Un retard d'une demi-heure passe encore, mais au-delà, c'est un vrai problème. La ponctualité est une marque de professionnalisme et de respect. On ne peut pas toujours fonctionner en mode « Inch'Allah, ça commence quand ça commence ». Mais bon, la prochaine fois, je ferai comme tout le monde. Je viendrai exprès en retard. Parce qu'en Guinée, être ponctuel, c'est être trop pressé. Au moins, on prend la vie du bon côté, même avec une heure ou deux de retard.
Eh ben, on a retenu la leçon, hein, à l'ARCSAM, être ponctuel, c'est être trop pressé. Merci beaucoup, Alpha Omar Baldé, on adore votre billet. Et merci à vous, à l'ARCSAM. On retrouve tous ces articles et tant d'autres sur le site mondoblog.org et les réseaux sociaux. Rendez-vous jeudi prochain pour découvrir de nouveaux articles des blogueurs, des blogueuses francophones. Merci à l'équipe Juliette Brault, Delphine Cachin, Romain Dubrac, Thibaut Matta. Nos émissions sont à réécouter en podcast et demain, 8 milliards de voisins. Laurence Garcia présentera l'émission. Moins de vérification, moins de modération. À quoi s'attendre sur les réseaux sociaux? Alors que des changements drastiques ont été annoncés, vous le savez, dans la politique de modération du groupe Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram, WhatsApp, avec notamment la fin du fact-checking. C'est un revirement au nom de la liberté d'expression. Dans les pas d'Elon Musk, propriétaire du réseau social X. Et vous, les voisins, dites-nous si vous êtes inquiets par cette prise de décision, par ces plateformes, ce qui va se passer. Avez-vous quitté certains réseaux sociaux? Vos réactions nous intéressent sur WhatsApp au 33 7 64 45 50. 41. Et vous répondez aussi sur le même sujet à notre sondage en ligne sur WhatsApp Channel. Dans quelques instants, le journal sur RFI. Ensuite, ce sera votre rendez-vous avec RFI, avec Afrique Midi.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalea Hotels, leader régional.